Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, nous contemplons le Christ, roi de l'univers. Que Dieu soit le roi, cela lui appartient de par sa nature. Avant qu'il y ait un commencement, Dieu est de toute éternité. Il est la source de l'amour. Et parce qu'il est dans la nature de l'amour, de se donner, voilà que le bon Dieu veut se donner même dans ce qu'il y a de plus étranger à lui, c'est un pur esprit, il se donnera même dans le règne de la matière. Pourquoi ? Parce que dans le dessein de Dieu, il a voulu nous créer, hommes et femmes, à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes dans la complémentarité de l'amour qui seul enfante naturellement la vie, cette vie reçue de Dieu, cette vie surnaturelle qui dans le sein d'une mère voit également éclore l'âme éternelle infusée par Dieu, c'est dans cette complémentarité de l'amour, dans cette complémentarité qui donne la vie que le bon Dieu a voulu créer pour nous, rien de moins que l'univers. Le bon Dieu règne donc dans sa création. Il en est le commencement, il en est donc la fin. Toute cette création vient de Dieu et retourne à Dieu. Comme nous, créatures spirituelles qui lui ressemblons, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. De telle sorte que ce règne du Dieu créateur est présent en chacune des créatures. Car le bon Dieu, en créant l'univers, crée tout autant les lois qui les régissent. Cela a toujours été l'admiration des premières civilisations ouvertes à la transcendance de ce Dieu créateur, que de contempler le mouvement des astres et d'y voir la régularité de ces lois qui, leur échapper comme une grande part, nous échappe encore. L'âme grande ouverte, nous recevons la création comme un don de Dieu, comme également nous recevons les lois de la nature. Ces lois de la nature que peu à peu, génération après génération, siècle après siècle, émergent et sont autant d'enseignements que nous nous transmettons de génération en génération. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice qui décrypte tous les mystères de l'univers. Dans l'Évangile, nous entendons le Seigneur Jésus rendre grâce à son Père, car ce qui est caché aux sages et aux savants, caché, mais que petit à petit, eh bien, il découvre, cela est révélé au plus petit. Cela signifie que non seulement Dieu règne dans la splendeur de sa création et dans ses lois, mais il règne également par le régime de la foi révélé au tout petit que nous sommes. Par humilité, voilà que Dieu nous donne le don de la foi. Ce n'est pas nous qui décidons de croire en Dieu, c'est Dieu qui nous donne la possibilité de croire en lui, d'être toujours tourné vers lui, car comme l'affirment les Écritures, il ne dort ni ne sommeille, le Créateur d'Israël. Voilà que jour et nuit, nous sommes en communication avec Dieu, parce que son règne est venu jusqu'à nous. Non seulement Dieu règne de par sa création, parce qu'il est Dieu, il règne par ses lois de la nature, mais il y a également cette loi naturelle qui est inscrite en nous. Cette loi naturelle, elle a pour direction le bien. Et le bien commun de tout l'univers, nous dit saint Thomas d'Aquin, n'est autre que Dieu, parce qu'il en est le commencement, parce qu'il en est la fin. Voilà quel est le bien que nous avons en commun dans tout l'univers, Dieu, qui est la source de la création, Dieu qui règne dans les lois et également par les lois inscrites en notre conscience. Cette conscience est comme une boussole qui indique le nord. Notre conscience nous indique toujours Dieu et nous indique le bien. S'il est dans la nature de l'amour de se donner, il est dans la nature du bien de se communiquer. Eh bien voilà que le bien se communique, mais le règne du péché vient entraver le règne de Dieu. Le règne du péché, eh bien voilà qu'il va être mis à mal par l'incarnation de notre Seigneur Jésus le Christ. Le Christ est donc roi parce qu'il est Dieu. Et il ne faut pas croire qu'il ne viendrait manifester son règne qu'au jour de son incarnation. Non, lorsqu'il se fait homme tout en demeurant Dieu, il rend visible ce gouvernement qui était jusqu'alors invisible. Le gouvernement invisible du Verbe qui imprime ses lois est présent dès le commencement. Voilà pourquoi dans la pédagogie divine, pour venir nous sauver, Dieu, à travers les temps, va rappeler sa loi dans les 10 commandements, va rappeler les termes de l'alliance qui nous unit, nous, hommes, à Dieu. Et que pour pouvoir fonder une civilisation, et c'est la caractéristique fondamentale de toute civilisation, que de se fonder sur Dieu. Une fois que la civilisation est fondée sur Dieu, et le Dieu révélé, c'est encore mieux, eh bien voilà qu'il va se découler toute une loi, toute une morale qui aura pour pierre d'angle cet enseignement de Dieu, la préférence du bien sur le mal, la préférence et cultiver la vertu sur le vice qui, en raison du péché, nous est devenu d'une facilité aberrante. Voilà pourquoi le Christ non seulement va révéler cette loi naturelle qui n'est pas, eh bien, irrationnelle. Nous comprenons qu'il nous faut aimer Dieu pour pouvoir aimer le prochain. Là est notre dignité. Nous comprenons qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur, car nous ne sommes pas comme des bêtes qui travailleraient jour et nuit. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dans les 7 jours que forme une semaine, le 7e jour est le jour du Seigneur, le jour du repos, le jour de la contemplation, le jour où nous venons faire allégeance envers notre Créateur, envers notre Rédempteur. Oui, le Christ règne dans sa rédemption. Il est venu nous racheter au prix de son sang. L'unique sacrifice du Christ est offert non pas seulement pour le peuple juif dont il est issu, mais à travers ce peuple dont il est successeur du roi David, dont le règne est éternel, le concernant, comme l'a affirmé l'archange Gabriel au jour de l'Annonciation à Notre-Dame, et bien voilà que ce règne éternel passe par la croix. Il vient offrir toute sa vie pour le pardon de nos péchés. Il offre pour le genre humain non seulement la justice, mais tout autant la miséricorde. Dieu règne donc de par sa création, Dieu règne par sa rédemption, parce qu'il est le Sauveur. Il règne également car il est notre juge. Voilà que le bon Dieu nous dit dans son incarnation ici-bas sur la terre, lorsqu'il était parmi nous, entouré des apôtres, de Notre-Dame et de la prime communauté chrétienne, « Je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. » Voilà la mission du Christ au jour de son incarnation. Mais voilà le Seigneur mort et ressuscité qui réouvre les portes du ciel. Il monte à la gloire du ciel au jour de son ascension et nous attendons. Nous attendons le retour du Christ. Il reviendra, cette fois-ci, non plus dans l'anonymat de la crèche de Bethléem. Il reviendra dans la gloire de sa divinité pour juger. Juger les vivants qu'il trouvera sur la terre, comme il juge les morts qui se présentent à lui. C'est l'image du bon berger qui est venu ici-bas pour donner sa vie pour la brebis perdue que nous sommes. Il est le bon berger parce qu'il veut rassembler l'ensemble de la famille humaine, l'ensemble du genre humain. Pour nous, il a fondé notre univers, et bien voilà qu'il nous promet la vie éternelle en paradis. Le Seigneur est donc le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il règne dans sa création, il règne par le sacrifice de sa croix parce qu'il est le Rédempteur, il règne parce qu'il est notre juge. Et nous savons, puisque nous fréquentons le Seigneur dans les Saintes Écritures comme dans les sacrements, que le Seigneur n'est pas seulement juste, c'est déjà beaucoup, frères et sœurs, car les anciens dieux païens, eux, n'étaient pas justes. C'est le drame de l'Iliade et de l'Odyssée qui était comme la Bible, pourrions-nous dire, pour les Grecs anciens. Comment se fait-il que Achille, dans l'Iliade, qui est un homme relativement juste, reçoit des dieux, des entraves, même lorsqu'il fait le bien, et que Ulysse, dans l'Odyssée, qui est un fieffé filou, réussit à s'en sortir avec l'aide de certains dieux. Platon, qui rédigera un ouvrage fondamental, qui est la Res Publica, la République, la chose publique, dira bien qu'il n'est pas possible que s'il y a des dieux, ils s'adonnent soit au bien, soit au mal. Et Platon affirmera, il y a forcément un dieu, et il est immuable dans sa bonté et dans son amour. Voilà où les pères de l'Église, lecteurs des Saintes Écritures, iront chercher eh bien, les éléments pour fonder aussi intellectuellement notre civilisation occidentale, notre civilisation jadis chrétienne. Nous devons viser le bien. Et l'ensemble de notre civilisation, lorsqu'elle a pour pierre d'angle Dieu, eh bien, sait distinguer clairement le bien du mal. Et aujourd'hui, ou après l'ère révolutionnaire et après tant de fois où on a voulu détrôner Dieu et où on le détrône encore aujourd'hui, il ne faut alors pas s'étonner, lorsqu'on a retiré la pierre d'angle, que tout l'édifice civilisationnel commence à s'effriter et que quelques pierres commencent à tomber. Il n'y a plus clairement le bien et le mal, il n'y a plus clairement des lois eh bien, qui nous permettent de bien vivre. La recherche du bien commun est plus ou moins limitée. Eh bien voilà, comment nous pouvons nous affaisser. Lorsque le pape Pie XI institue cette solennité qui nous voit réunis aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que nous ne pouvons pas survivre sans la grâce de Dieu et que toute civilisation qui voudrait s'ériger dans un athéisme contre Dieu, sans Dieu, ne pourra pas tenir. C'est alors que nous entendons dans l'Évangile tous ceux eh bien, qui adressent cette voix blasphématoire auprès du Seigneur. Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et comme il est écrit au-dessus de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Sauve-toi toi-même et nous aussi, dit le mauvais larron. Toutes ces exclamations sont comme la voix du monde qui veut s'élever contre Dieu. Le Seigneur ne vient pas se sauver lui-même, il vient nous sauver. Et pour nous sauver, il vient s'offrir en sacrifice d'amour, en sacrifice réparateur. Alors, nous entendons le bon larron. Le bon larron est appelé ainsi non pas en raison du bien qu'il a accompli, au contraire, il reconnaît que lui, s'il est un condamné, c'est juste en raison des crimes qu'il a perpétués. Il est juste, affirme le bon larron, que nous mourions en raison des crimes horribles que nous avons commis pour rétablir la justice. Et le Seigneur Jésus, qui est la justice, mais tout autant la miséricorde, qui entend ce retour à lui dans le plus profond de sa conscience, car le Seigneur sonde les reins et les cœurs, peut lui affirmer « Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis, dans mon royaume ». Nous voyons que le Seigneur règne. Il règne par sa justice, il règne aussi par sa miséricorde. Alors, avec le pape Pie XI et avec toute l'Église, nous acclamons le Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il règne sur nos âmes et comme l'affirme saint Paul dans les Écritures, toute autorité vient de Dieu. L'autorité du chef de l'État, l'autorité du père et de la mère de famille, l'autorité de l'instituteur, l'autorité du gendarme et du pompier, l'autorité, elle nous vient de Dieu. Elle ne s'exerce pas comme un pouvoir tyrannique pour être au profit d'un seul. Au contraire, il s'agit d'un service, d'un ministère qui est là pour, eh bien, servir le genre humain, pour servir donc la gloire de Dieu. Alors prions dans un monde qui s'élève contre Dieu, dans un monde qui cultive la haine, dans un monde où on voit s'enchaîner les victimes, victimes du quotidien, même en notre France, victimes des guerres en tant de pays du monde. Prions pour que le Christ règne. C'est tout l'objet de l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, lorsqu'il institue cette fête, juste avant la Seconde Guerre mondiale, où il affirme « Pour que la paix advienne, il faut d'abord que le règne du Christ advienne. » Alors prions ardemment, frères et sœurs, pour que les cœurs s'ouvrent à la royauté du Christ, pour qu'alors il puisse dispenser sa paix et qu'il puisse nous conduire au dernier jour en paradis. Ainsi soit-il.